Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Les élections européennes ont confirmé le chamboulement de la vie politique française avec dernier épisode en date hier soir, le départ de Valérie Pécresse des Républicains. Est-ce que vous l'invitez à vous rejoindre ?
Alors d'abord, je crois que la recomposition du paysage politique, elle est réelle, elle est durable. On l'a vu au moment de l'élection présidentielle, quand Emmanuel Macron a été élu, c'était aussi un rejet de la politique traditionnelle droite-gauche, de l'alternance traditionnelle. Ça se confirme au moment des élections européennes. C'est un mouvement qu'on voit d'ailleurs poindre dans plusieurs pays européens. Je crois que le monde politique est en train de changer et les citoyens attendent autre chose. Donc bien évidemment que tous ceux qui sont, déçus de leur ancienne politique seront les bienvenus, notamment dans le cadre des municipales. Il y a un certain nombre de maires qui commencent à se dire qu'il faut aller vers des nouvelles formes de politique et qui sont prêts à nous rejoindre.
Donc Valérie Pécresse, elle est bienvenue chez vous.
Alors de toute façon, Valérie Pécresse, elle fera ce qu'elle voudra,
ouais.
Comme chaque homme ou chaque femme politique.
Oui, mais puisque vous invitez en effet explicitement un certain nombre de maires à vous rejoindre pour les municipales, vous pourriez tendre la main à Valérie Pécresse.
Je crois qu'elle a annoncé autre chose, si j'ai bien compris.
Mais
on verra. Mais vous savez, les chemins de la politique, ça évolue beaucoup.
Aujourd'hui, on peut dire que la gauche est en haillons, que la droite est en lambeaux et que le Rassemblement national est en tête aux élections européennes. Est-ce que c'est un paysage politique qui vous convient ?
Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quel est l'avenir politique que veulent dessiner nos concitoyens en France et en Europe. Et c'est clair que le paysage, comme je le disais, change. Mais ça permet aussi de clarifier un certain nombre de valeurs sur lesquelles on se bat. On se bat pour un progressisme social, économique, démocratique. Et je crois que c'était dans l'enjeu des campagnes européennes. Ça va être l'enjeu maintenant, des temps qui viennent, de montrer cette valeur de l'Europe. La France veut être forte dans le monde. Et pour être forte dans le monde, il faut que l'Europe soit forte. Et donc je crois que ça fait partie maintenant d'un partage des eaux. Il y a vraiment deux conceptions de la vision d'un... Qu'est-ce que c'est qu'un pays fort ? Qu'est-ce qui protège les citoyens ? Ce qui protège les citoyens, c'est pas de mettre des murs. C'est pas de fermer les portes. C'est pas de se recroqueviller. Ça amène de la perte d'emploi. Ça amène de la destruction économique. Et à la fin, on n'a pas les moyens de faire de la redistribution sociale. Je crois que ce qui protège, c'est d'être ouvert, mais exigeant. Et de mettre en place, et c'est l'objet par exemple de ce qu'on va faire au G7 social, de mettre en place des règles qui protègent socialement tout en étant ouvert internationalement.
On va parler du G7 social, mais d'abord, on a appris cette nuit que Fiat Chrysler retirait son offre de fusion avec Renault. Dans son communiqué, le groupe italo-américain estime, je cite, qu'il est devenu clair que les conditions politiques en France ne sont pas réunies pour qu'une telle combinaison voie le jour avec succès. Autrement dit, il reproche aux autorités françaises d'avoir trop tergiversé. Qu'est-ce que vous dites ce matin ? C'est bien comme ça ou on passe à côté d'une belle opportunité ?
Je dis, et j'ai de l'expérience en la matière, que d'abord, quand deux groupes se rapprochent, ça doit être une stratégie industrielle, avant d'être une appréciation politique. C'est d'abord une stratégie industrielle. Et je pense qu'il est normal, le conseil d'administration de Renault, qu'il demande plusieurs semaines ou plusieurs mois pour étudier une offre et pas plusieurs jours, pour voir les conséquences en matière stratégie industrielle, innovation, emploi, qui est un sujet essentiel. C'est normal que le conseil d'administration soit exigeant. Si l'autre partie ne veut pas prendre le temps de cet examen approfondi et de ses précautions qu'on prend, eh bien c'est la vie industrielle.
Ouais, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait salué au départ cette opportunité. Aujourd'hui, il dit qu'il assume. Vous êtes sur la même ligne. En la matière, oui. Pas de précipitation.
On peut pas faire des alliances dans la précipitation. On peut être ferme, déterminé, mais les précautions qu'on prend pour protéger notamment l'innovation et l'emploi, c'est normal que le gouvernement français supporte le conseil d'administration dans ce sens-là.
Alors, vous allez donc accueillir aujourd'hui et demain le G7 social à Paris, qui est une étape vers le sommet du G7 du mois d'août à Biarritz. Il s'agit donc d'une réunion des ministres du Travail et des Affaires sociales des pays membres du G7. Votre ambition ? C'est d'obtenir plus de justice sociale dans la mondialisation, avec des points précis sur lesquels on pourra revenir. Est-ce que, au cours des deux journées qui viennent, vous attendez des engagements clairs et concrets qui auront une traduction lisible par tout le monde ?
Alors le G7 social, ce sont le G7 des ministres du Travail, des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. Cette année, vous savez, la France préside le G7. Le président recevra les chefs d'État du G7 en août. Et avant, il y a plusieurs G7 ministériels, à la fois pour préparer les travaux, nourrir les travaux, mais aussi qui engagent. Par exemple, ce que nous déciderons d'ici demain soir avec mes collègues nous engage. Et le thème que nous avons choisi s'inscrit dans le thème de lutte contre les inégalités que le président a choisi pour le G7 du mois d'août. Nous avons choisi d'aller sur plus de justice sociale dans la mondialisation. Mmh. Derrière ce mot, concrètement, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est loin du compte. La mondialisation a fait réduire le taux de pauvreté dans le monde. En 30 ans, on est passé de 40 à 8%. Mais néanmoins, encore aujourd'hui, il y a 6 travailleurs sur 10 dans le monde qui sont dans le travail informel, c'est-à-dire non déclaré. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, d'allocation maladie, de retraite. Ils n'ont aucune protection. Et en outre, plus de la moitié n'ont pas du tout de protection sociale dans la population. Et il y a aussi du travail forcé qui existe encore, vous vous rendez compte, en 2019, 25 millions de femmes,
150
millions d'enfants, et 150 millions d'enfants, c'est l'estimation de l'Organisation internationale du travail. Alors on profite d'un momentum, parce que la semaine prochaine, on fêtera les 100 ans de l'Organisation internationale du travail, qui a été la première organisation internationale à être créée, et on a le G7. Et donc on a choisi 4 thèmes avec mes collègues. On travaille depuis 6 mois et je voudrais saluer l'action d'Anouche Kerver qui est auprès de moi la déléguée du gouvernement français à l'OIT et qui prépare ce G7 avec moi. Et on a 4 thèmes très importants. L'égalité homme-femme, on veut aller plus loin. Il y a des endroits où ça recule dans le monde, des endroits où ça progresse, comme la France. Il faut aller plus loin. Un sujet concernant les compétences dans un monde numérique, comment chacun va pouvoir outiller. Et puis 2 sujets qui sont des enjeux, qui ne sont pas encore joués, et les 2 jours qui viennent vont être décisifs. Il y en a un, c'est l'accès universel à la protection sociale. Nous voulons essayer d'obtenir un engagement des 7 pays les plus riches, qui représentent 40% du PIB mondial, pour qu'on s'engage avec les partenaires sociaux, et j'ai invité les partenaires sociaux du G7, mais aussi mondiaux à cette séquence, qu'on puisse promouvoir un accès universel à la protection sociale, que tout travailleur dans le monde puisse avoir une protection sociale. Le quatrième sujet, c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Il est essentiel, c'est qu'on ne soit pas schizophrénique. Vous savez, parfois les mêmes pays, on se retrouve au FMI, à la Banque mondiale, à l'OMC ou à l'Organisation internationale du travail, et on a des pratiques ou des discours qui sont contradictoires. On veut que quand un pays, par exemple, se restructure ou a une aide financière ou fiscale, à ce moment-là, qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de détruire et même qu'on est en train de promouvoir les socles de protection sociale. C'est inédit, c'est jamais arrivé dans un G7 et c'est l'enjeu d'ici demain soir. C'est pas encore gagné, mais on y travaille.
Alors justement, puisque vous parlez du multilatéralisme, est-ce qu'on peut faire avancer ces dossiers avec un partenaire comme Donald Trump qui n'aime pas le multilatéralisme ?
C'est la vie politique est toujours plus compliquée. C'est vrai que les États-Unis ne sont pas très en faveur du multilatéralisme par ces temps, mais sur les sujets de justice sociale, sur les sujets que j'évoque, de protection sociale.
Vous travaillez en bonne entente avec les États-Unis.
Je travaille bien avec mon collègue et j'ai bon espoir que nous y arriverons d'ici demain soir.
Ça n'est pas l'échelle européenne qui serait peut-être d'abord dans un premier temps plus efficace pour faire avancer ces dossiers ?
Alors, comme vous le savez, dans le G7, d'abord, on est plusieurs pays européens et pas des moindres, puisque l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni pour l'instant, et l'Italie. Donc déjà, ça contribue à faire notre réflexion européenne. Mais je pense que c'est important, c'est transcontinent, cette question. Ouais. C'est important que le G7 s'implique là-dessus. Et j'espère qu'on... Encore une fois, c'est pas gagné. On souhaite aussi avoir un soutien et un accord avec les partenaires sociaux mondiaux, patronat syndicat. Tout ça se joue d'ici demain soir.
Merci Muriel Pénicaud. Bonne journée.